L'enregistrement audio, mais je pense qu'il y avait l'enregistrement vidéo. OK. Donc, c'est dans Genèse 37 que nous allons ce matin ensemble pour lire quelques versets pour commencer, puis on va un peu faire un survol du chapitre parce que on va regarder, dans le fond, un peu en bribe les éléments essentiels de ce qui nous est communiqué ici. Et quand ici on lit Israël, il faut comprendre Jacob, parce que c'est l'autre nom. Parce qu'Israël, des fois, on réfère au peuple. Mais là, ici, vraiment, dans le contexte, on parle de Jacob, là, le patriarche, le père des 12 tribus. Et donc, on commence au verset 3, ça dit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. » Il le prit en haine et il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. On te remercie, Seigneur, de ce que tu nous donnes un temps pour s'arrêter ensemble. On le disait dans la prière, Seigneur, tantôt, ce qui est distinct de ton peuple, c'est qu'il se repose en toi. Dans l'Ancien Testament, il y avait le sabbat qui était un signe visuel et concret de ce repos. Et nous, maintenant, nous avons l'accomplissement en Jésus. Où est-ce que pour le salut de nos âmes, on se repose de nos œuvres, mais aussi, Seigneur, on peut se reposer en toi dans le quotidien. Merci pour le repos en Jésus. Et on vient à toi ce matin pour entendre tes paroles douces, vraies, pour se reposer en elles, se reposer en toi avec ce que tu as à nous dire ce matin. Parce que tu as quelque chose à nous dire, à chacun ici personnellement, et à nous tous aussi ensemble en tant que corps. Donc merci Seigneur que tu te donnes à nous dans ce temps béni. On s'ouvre à toi, on s'en remet à toi pour, Seigneur, que chacun ici prenne ce beau rendez-vous divin que tu as pour chacun. Au nom de Jésus. Amen. Le plan vers la grandeur de Dieu. C'est le thème du mois de juillet, la grandeur de Dieu, ou créer pour la grandeur de Dieu. Nous sommes créés pour la grandeur de Dieu. Puis avant, bon, de tirer des leçons avec le passage, puis l'histoire qu'on va considérer. Ici, c'est une histoire bien connue, hein? Puis vous allez voir aussi, on ne sera pas dans un terrain inconnu dans le mois de juillet. On va être avec des choses qui sont quand même bien familières, mais desquelles on peut toujours apprendre. Et j'aimerais vous donner un peu l'essentiel de ce qu'on va couvrir, là, avec ce thème de la grandeur de Dieu, du fait que nous sommes créés pour la grandeur de Dieu. C'est dans le sens où est-ce que nos vies puis nos voies vont être incomplètes et insatisfaisantes tant que nous n'aurons pas trouvé, pris, tant qu'on ne se sera pas approprié les vérités de la grandeur de Dieu. Et les vérités de la grandeur de Dieu, on peut dire qu'il y a deux éléments essentiels par rapport à ça. D'abord, le comment de la grandeur de Dieu, c'est la croix. Comment Dieu voit sa grandeur? Par la croix. La croix qui réconcilie sa justice et son amour. Mais aussi le pourquoi de la grandeur de Dieu. Pourquoi Dieu est si grand et incomparable qu'il n'y a pas Dieu comme lui? Son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Les deux, évidemment, vont ensemble. Sa personne, son œuvre, son... Dieu est amour et le monde par la croix. Et donc, on va développer ça ensemble, on va regarder différentes ramifications de ça. Et j'aimerais aussi amener, puis là-dessus, je ne sais pas s'il l'a là-dedans, il y a un bon, ah oui, il y a un bon livre que j'ai lu et que je vous recommande. Ça reste un livre écrit par un humain, là, une humaine, Purposeful, puis là-dedans, elle parle justement qu'on est créé pour différentes choses, puis une des choses là-dedans, c'est la grandeur de Dieu. Puis ce qu'elle explique là-dedans, c'est que, tu sais, on a cette aspiration à vivre pour plus grand que soi-même, tu sais. Quand on est petit, on veut être Bon, les petits gars valaient être des pompiers. Qu'est-ce qu'ils veulent être, les petites filles, donc? Je sais pas trop, des princesses ou en tout cas. Tu sais, on veut être quelque chose de grand puis tout ça, puis on veut comme vivre plus grand que nature. Et ça, savez-vous quoi? C'est le dessein de Dieu pour nous autres. Parce que ça veut pas dire qu'on va tout être des gouverneurs comme Joseph ou président d'une compagnie ou tout ça. Mais la grandeur à laquelle on aspire, c'est Dieu. C'est lui qui est grand, c'est lui qui est plus grand que nature. Puis c'est quand on le trouve qu'on a enfin cette satisfaction qu'on recherchait tout ce temps-là dans toutes sortes de choses trompeuses et mirages de ce monde. Il est la réalité, la substance de ce qu'on recherche quand on recherche la grandeur. Dieu a des plans, des projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, on va le trouver lorsqu'on le trouve, lui. C'est pour ça qu'il termine ce passage-là dans Jérémie 29. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ces grands projets, ces grandes choses, c'est dans une personne qu'on les trouve. Et on va considérer dans le mois de juillet deux hommes. Désolé les filles, c'est moi-ci, c'est des gars. Alors, les deux hommes qu'on va considérer, ils sont caractérisés par le fait que Dieu a vraiment révélé des grandes choses par rapport à lui, puis il a dit avec des grands projets pour eux autres. En fait, c'est Dieu, dans son initiative, qui a décidé qu'il allait se révéler comme ça, puis qui a décidé qu'il allait faire des grandes choses demain. Pourquoi? Savez-vous quoi? La grandeur de Dieu, elle n'est pas acquise, elle est reçue. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai essayé d'atteindre par mes efforts, c'est quelque chose que je reçois par sa grâce. Et Dieu leur a révélé, parce que, savez-vous quoi? Ces deux-là, c'est parce que Dieu leur a révélé qu'ils ont atteint cette grandeur, ces grands projets, ces grandes choses que Dieu avait pour eux autres. Et ils ont atteint dans des contextes tout à fait différents. Puis eux sont des personnes totalement différentes. Les deux, bien, vous allez devenir le premier, c'est Joseph. Joseph qui est un peu monsieur le parfait, là. C'est pas qu'il est parfait, on va avoir déjà un défaut tantôt avec lui, là. Mais il n'y a rien, c'est un des rares personnages de la parole de Dieu avec Daniel qui se démarque là-dessus, puis peut-être Enoch, mais malgré qu'il y a moins de détails sur la vie d'Enoch, il n'y a pas de faille de caractère évidente qui est donnée sur sa vie. Le deuxième personnage, ah ben là, c'est tout le contraire. Et savez-vous, c'est qui? Quelqu'un du Nouveau Testament? Pierre. Pierre, on le voit, c'est monsieur plein de défauts, le pied dans la bouche. C'est monsieur qui se met dans le trouble, puis qui court après le trouble, qui trouve le trouble aussi. Mais savez-vous quoi? Dieu les aime, les deux. Et Dieu les utilise, les deux, dans son grand plan. Et vous savez quoi, c'est vrai pour nous autres. On n'est pas tous pareils. Il y a des gens ici de tout azimut, de tout acabit, qu'on est vraiment différents, mais nous sommes tous créés pour la grandeur de Dieu. Et quand on est un enfant de Dieu, la Bible nous dit qu'on est même créé pour ses plus grandes et ses plus précieuses promesses. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Donc, j'aimerais qu'on considère ça ensemble. Le plan vers la grandeur de Dieu avec trois éléments essentiels de ce plan. Trois éléments essentiels du plan vers la grandeur de Dieu. D'abord, la révélation de Dieu. Le premier élément, là, c'est la révélation de Dieu. On a ça au verset 5 et au verset 9, c'est répété. Il y a eu deux épisodes de songe pour Joseph. Verset 5, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Et ensuite, verset 9, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et dit, « J'ai eu encore un songe. » Puis là, il donne un peu le songe. « Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Ça, c'est des révélations divines. Ce n'est pas juste un rêve ordinaire. Dieu avait une révélation ici. C'était significatif. À l'époque, bon, c'était différent. Il n'y avait pas la parole de Dieu comme nous autres. C'était au tout début. Et Dieu se révélait comme ça à travers des songes. Il y a quelque chose ici même d'autoritaire dans le sens de révélation nouvelle. Mais comprenez bien ici la situation où est-ce que Joseph, à deux reprises, il y a eu la révélation de Dieu par des rêves, mais il y avait quand même pas mal de questions qui restaient en suspens. Tu sais, c'était quand même assez vague. Ça doit être deux rêves différents. Ça ne répondait pas à toutes les questions, puis tous les détails n'étaient pas remplis par rapport au comment, le où, le quand, le pourquoi. En fait, c'était toutes des questions qu'il devait bien se demander, c'est quoi cette affaire-là? OK? Et tout ça, c'était Je dirais, c'était difficile à croire parce que c'était le plus jeune. C'était pas dans l'ordre des choses. Normalement, mettons, quelqu'un qui a la prééminence sur ses frères, ça serait le premier-né, n'est-ce pas? Ça serait le plus vieux, mais lui, c'est le plus jeune. Donc, c'était dur à croire. Si, en plus, ce que j'aimerais souligner, c'est que pour Joseph, puis aussi pour nous aussi, là, la question de la révélation de Dieu, pour ça que des fois, ça nous prend un peu de cours, c'est que, je le répète, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui est reçu. C'est pas quelque chose que je peux m'attendre, ah, Dieu révèle des choses à mon cœur, puis tout ça. C'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu, ça vient de la grâce de Dieu. Puis là, je veux qualifier le mot « révélation » ici. Je ne parle pas de choses nouvelles que Dieu nous montre, mais Dieu qui se révèle à nous, qui se révèle à nos cœurs. Comme pour être sauvé, hein, comme Paul le dit dans Galates chapitre 1, verset 16, « Quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de révéler en moi son Fils. » Bien aussi, Dieu, lorsqu'on est un enfant de Dieu, qu'on a Jésus comme notre sauveur, Dieu se révèle de plus en plus à nous. C'est ça ce qu'on appelle, en termes néo-testamentaires, l'illumination du Saint-Esprit. Donc, le mot technique plus précis, ça serait illumination. Mais pour se comprendre ici, pour avec le texte un peu avoir une compréhension selon ce qu'on regarde ce matin, on va prendre le mot révélation. Okay? Mais ça ne veut pas dire quelque chose de nouveau, mais tu sais, quand Dieu se révèle à nos cœurs, ça fait partie de ce qu'on appelle l'illumination. Ça veut donc dire que ce qui est pertinent pour nous, là, un peu comme pour Joseph, c'est pas notre position dans la vie, notre situation, notre passé, notre futur. Toutes ces choses qu'on pourrait considérer, « Ah là, voici, je suis digne de recevoir la révélation de Dieu. » Non, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est la souveraineté de Dieu, c'est lui qui va décider de ce qu'il veut nous montrer sur lui, quand il veut. C'est Dieu qui se révèle à nous. Tout ce qui compte, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que lui déclare, c'est ce que lui révèle. Et pour Joseph, ça voulait dire d'accepter, ça voulait dire de croire, là, puis de s'approprier l'identité de leader que Dieu lui donnait. Dieu lui a dit, toi là, tu vas être le leader. C'est ça que ça voulait dire la révélation. Tu sais, c'était la famille qui se prosterne, c'était une position d'autorité, de leadership. C'est ça le sens de la vision. Puis nous, c'est facile pour nous parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Puis on sait qu'il devient gouverneur en Égypte. Puis on sait que ses frères se sont littéralement prosternés devant lui. OK? Mais comme je vous dis, si on se met dans la peau de Joseph à 17 ans, le petit jeune de la famille, de voir tout ça, c'était ouf, c'était gros, là. OK? Mais justement, c'était pas par rapport à où il était en ce moment-là. C'était par rapport à ce que Dieu lui montrait à ce moment-là. Et Dieu lui montrait qu'il avait une identité de leader, d'autorité dans sa famille, et même plus que ça, on le voit dans le reste de l'histoire, de délivrance. Hein? Parce que le fameux verset dans la fin de Genèse, où est-ce que Paul, Joseph, dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, puis c'est comment? En délivrant. » C'est un plan de délivrance, de délivrer la famille de Joseph pour pas qu'il soit sujet à cette famine qu'il y avait dans le pays de Canaan. Maintenant, je crois que pour Joseph, le plus difficile, c'était pas nécessairement de croire Dieu sur parole, OK, mettons, ben, ou sur parole, ou sur rêve, là, je sais pas comment le dire, là. C'était pas nécessairement juste de croire, OK, le rêve qu'il avait eu. Mais c'était plutôt de croire en dépit des circonstances, puis sa position, puis la réalité dans laquelle il vivait. C'est ça qui était dur à croire. Moi, le plus petit, le plus jeune, le par rapport, le haï, je vais être le leader. Ça, c'était dur à croire. Ça nous ramène à quelque chose qu'on a parlé au mois d'avril avec David, l'identité réelle versus l'identité vraie. Vous rappelez-vous de ça? L'identité réelle, là, c'est comment qu'on sent, ce qu'on voit avec nos yeux, la réalité dans laquelle on est. Lui, c'était le petit gars, puis tout ça. Avec David, c'est aussi le plus jeune qui s'occupait des brebis. Puis qu'est-ce que Dieu avait révélé? Tu vas être le roi, un guerrier, un libérateur. Puis voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? OK? Puis pour nous aussi, Dieu, des fois, il nous prend le cours. Il nous révèle des choses sur lui, puis ce que ça veut dire pour nous, ce que nous sommes en lui, ben, ça se peut pas. Et je viens qu'un petit nobody, puis tout ça. Puis même des fois, on peut le penser par rapport à plus grand que nous autres. Là. T'sais, prenons l'exemple ici, on est une petite église, tout ça, on n'est pas très impressionnant, tout ça, aux yeux du monde. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas ça que Dieu regarde. C'est l'impact éternel avec ce que Dieu fait en nous et à travers nous. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde où? Au cœur. Et donc, pour nous, Dieu nous demande de nous approprier l'identité qu'il nous a donnée. Puis, comme pour Joseph ici, c'était vraiment la clé pour persévérer. Parce à quoi qu'il pouvait bien s'accrocher notre cher Joseph lorsqu'il était, bon, on l'a vu ici dans le trou, hein, dans la fosse, lorsqu'après ça, il s'est fait vendre, après ça, il s'est fait oublier en prison, puis OK, c'est à ça qu'il pouvait s'accrocher. OK, mais Dieu m'a donné un rêve. Dieu m'a donné une identité. C'est pas le genre d'affaire que tu oublies, là. Fait qu'il pouvait se ramener à ça. Ça m'amène au point ici important. Qu'est-ce que Dieu te donne auquel tu peux t'accrocher en tant qu'enfant de Dieu? Une réalité christocentrique, rédemptrice, à laquelle, contre vents et marées, tu peux t'accrocher et dire, ça c'est mon ancre, c'est ma fondation inébranlable sur laquelle je peux bâtir ma vie puis passer à travers tout ce qu'il y a dans ma vie. As-tu des choses comme ça? Puis là, ici, quand je parle de révélation, tu sais, littéralement, Dieu nous a révélé, tu sais, en Jésus, là, et qu'on est des affaires, là. On est la justice de Dieu, on est bien-aimé, on est accepté, on est tellement d'affaires, mais même plus précis ou plus personnel. Dieu peut nous dire, toi, t'es quelqu'un que je veux utiliser pour aller vers les opprimés, les oubliés, les gens qui n'ont pas de voix. C'est ce que j'ai pour toi. Puis là, il y a toutes sortes de déclinaisons que ça peut prendre en termes d'identité. Je crois que Dieu est assez grand et souverain pour communiquer à chacun de ses enfants précisément ce qu'il y a pour eux. On va prendre en termes qu'on connaît l'appel que Dieu a pour nous autres. Puis là, je ne parle pas juste d'un appel au ministère officiel, là, comme mettons, comme dans une église, être le pasteur ou avoir un ministère d'évangéliste. Ça fait partie de ça. Mais Dieu a ça pour les gens ordinaires. Mais c'est quoi? Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a personne vraiment d'ordinaire. On est tous précieux aux yeux de Dieu. On a tous quelque chose que Dieu a pour nous autres. Et ça, mes amis, c'est pas secondaire, c'est essentiel. Parce que la vie, c'est tough. Puis les relations, c'est messy. Comment qu'on dit ça? Les relations, c'est difficile. Les relations, là, ça... Tu sais, les relations, c'est pas un beau fleuve tranquille. Non, des fois, il y a du vent, puis la chaloupe, elle prend l'eau, OK? Fait que c'est là l'important de s'attacher à ce que Dieu s'est révélé à nos vies, dans nos cœurs. Puis là, vous comprenez, là, quand je parle de révéler, là, attendez-vous pas à avoir un Jésus de 10 pieds de haut dans votre chambre quand vous priez, là, OK? Mais je parle de choses qui vraiment qui marquent nos cœurs. Des choses là, qui vont devenir un ancrage sûr et solide auquel on peut s'accrocher. Par exemple, OK, dans tout ce qui arrive, Dieu m'aime. Juste celle-là, là, ce n'est tout qu'un, là. OK, dans tout ce qui m'arrive, là, ça ne veut pas dire que là, Dieu m'a abandonné et il ne m'aime pas, puis là, je ne suis pas à la hauteur. Non, non, Dieu m'aime. Je peux prendre ça comme une certitude absolue. Dans ce que je vis, je suis aimé de mon Père. Puis je suis aimé dans ce que je vis en ce moment. Ça fait partie de l'amour de Dieu pour moi. Ça, c'est rien qu'un exemple. On peut prendre tellement d'autres affaires. OK? Donc ça, c'est l'importance, OK? Pour aller là, dans cette idée là, de grandeur de Dieu puis de la vivre, de se l'approprier, ben ça commence par la révélation de Dieu. Puis justement, je vous donne un autre exemple. Dieu me montrait dans le livre d'Ézéchiel. Puis là, je vais vous faire une confession. Des fois, j'ai de la misère avec les prophètes. Tu sais, là, quand ils sont là, puis là, ils partent sur des go de condamnation. Là, puis là, des fois, ils jettent son soulier sur Edom. Puis là, une autre affaire. Puis là, des fois, tu lis ça, puis... Pff, tu sais, le chapitre est long, puis il n'est pas content, puis Dieu n'aime pas le péché, mais tu sais, des fois, c'est un peu long, là. Fait que là, je suis d'un bout de domaine dans Ézéchiel, puis là, je dis, Dieu, j'ai besoin de quelque chose qui vient directement de ton cœur. Puis comprenez, là, hey, c'est la parole de Dieu, puis tout, là. Puis juste transparent avec vous que des fois, ça peut être long, un chapitre, tu sais, de Dieu pas content du péché, OK? Puis, mais Dieu a le tour, des fois, hein, cette semaine, en lisant comme ça, justement, dans Ézéchiel, hey, personne n'a ri ma joke, hein? OK. Dans Ézéchiel, Dieu, il disait, bon, parce que là, il parlait, son peuple versus les nations, puis bon, ils ont violé les sabbats, puis tout ça. Puis Dieu dit, je vous ai donné les sabbats pour vous distinguer du reste du monde. Puis là, Dieu a parlé à mon cœur, puis hey, ce qui nous distingue, là, bon, c'est l'ancienne alliance, le sabbat, c'était tellement important, puis on sait, les Juifs du temps de Jésus avec les pharisiens, ils n'étaient pas contents de Jésus, tu violes le sabbat, puis tout ça. Mais la Bible nous révèle des choses sur le sabbat en Jésus, on se repose de nos œuvres. Qu'est-ce qui nous distingue des autres religions? Qu'est-ce qui nous distingue des philosophies de ce monde et tout ça? La foi chrétienne, c'est le vrai repos. Et ça, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Se reposer réellement de cœur, wow! Ça, c'est... En tout cas, là, je vais juste vous donner des exemples. C'est le genre d'affaires que, tu sais, quand Dieu, il accroche nos cœurs avec des vérités de main, puis là, c'est, oh, wow, merci Seigneur, j'avais besoin de ça. C'est ça que je veux dire par révélation, illumination. Dieu, là, on a besoin d'avoir ça de lui constamment. On a besoin du big picture pour des grandes choses lequel on se ramène tout le temps, mais même dans le quotidien, c'est pour ça qu'on prend un temps de dévotion, d'un temps avec le Seigneur, parce qu'on a besoin d'entendre notre Père qui nous rappelle ces choses, qui nous ramène à ce fondement, à cette simplicité, à Jésus, à la croix, à ces choses essentielles. OK? Et ça, mes amis, oui, c'est des choses qu'on recherche, mais d'une autre façon, ne sont pas acquises par notre performance, ce sont simplement reçues. C'est Dieu qui nous le montre. Tu sais, comme moi, je m'attendais, OK, je recherchais, OK, Dieu, je vais entendre de quoi dans mon cœur pour ce que tu as pour moi. Puis bon, même je suis dans Ézéchiel, tu es capable de faire ça. Mais je l'ai reçu. Dieu m'a, tu sais, c'est un verset. Puis là, ah, ça m'a interpellé. Ça m'a, voyez-vous? Fait que c'est pas acquis. Hey, là, j'ai lu assez, puis là, j'étais assez concentré. Puis non, des fois, on n'est pas si concentré, puis on a de la. Des fois, les pensées s'en vont à gauche, à droite. Mais c'est reçu. Dieu, boum, il t'arrête là-dessus, puis là, il te donne ça. Il te dit, ça, c'est pour toi. Prends-le. Pars avec ça pour ta journée. Et donc, c'est le point de départ. Je pense que vous avez un peu l'idée. Mais vous savez quoi? Il y a un hic. Comme on dirait en anglais, il y a un hic. Il y a un H dans hic. Ce n'est pas un processus sans anicroche. Ce n'est pas, comme je le disais tantôt, un long fleuve tranquille. Parce que Dieu commence ça, mais... Souvent, c'est pas évident, on ne sait plus trop. Des fois, on ne s'y retrouve plus. Des fois, on ne sait plus trop par où commencer ou où est-ce qu'on est rendu ou comment continuer. C'est pour ça que l'élément, le deuxième élément essentiel est si important. Non seulement il y a la révélation de Dieu qui nous amène vers son plan, vers sa grandeur, mais aussi la sagesse de Dieu. Première chose, c'est la révélation de Dieu. La deuxième, c'est la sagesse de Dieu. Remarquons trois versets. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Regardez aussi le verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et finalement, le verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses, ou il méditait ces choses, c'est ça l'idée. Donc, voyez-vous, famille pas très idéale, pas très fonctionnelle, c'est assez typique dans la Bible, c'est quand même spécial. La Bible a beaucoup de familles dysfonctionnelles, les patriarches étaient assez notoires pour ça, David, on en parlait, OK. Pourquoi je parle de la sagesse de Dieu? Parce que c'est merveilleux que Dieu ait donné à Joseph une révélation comme ça, de son plan, de la grandeur de tout ce qu'il voulait faire, son identité, la délivrance qu'elle a amenée. Mais dans le cas de Joseph, il n'y avait pas beaucoup la sagesse pour gérer une telle révélation. Je crois qu'on a dans le verset 6 un peu une idée du ton. Par écrit, c'est dur des fois d'avoir le ton. Mais regardez le verset 6. Joseph parle à ses frères et il leur dit, « écoutez donc ce songe que j'ai eu. » Puis un point d'exclamation. Moi, je pense qu'il disait, « Hey, écoutez, là, on va vous dire ce que j'ai eu. Dieu m'a montré. » Il était arrogant, je crois. Je pense qu'il se pensait bon, le petit jeune, puis le « Hey, j'ai eu un son, puis tout ça. » Puis... En tout cas, d'après ce que je comprends, encore là, c'est dur de voir quel est le ton, mais tu sais, le « donc » et le point d'exclamation semblent communiquer qu'il y allait un peu over the top, là, notre cher Joseph. Là. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de sagesse pour gérer ses relations familiales. Puis, je pense qu'il instrumentalisait le fait que Dieu lui donnait des révélations comme ça pour provoquer ses frères. Déjà, c'était le chouchou, il en mettait. Fait que, bon, comprenez-vous? Les frères, eux autres, de leur côté, ben, ils étaient dans la haine et la jalousie. Ils n'étaient pas plus sages, là. Leur plan pour s'occuper de leur frère, c'est d'abord de le tuer, puis une chance qu'il y en a qui ont eu d'autres idées. Mais, tu sais, de le jeter dans une fosse, c'était pas bien mieux. Puis de dire, ben, on a une meilleure idée, tu sais, on va le vendre. Wow, c'est un bon plan, ça, pour résolution de conflits familiaux, hein. N'essayez pas ceci à la maison, là. Vendez pas votre frère ou votre soeur. Les enfants, vous n'avez pas le droit de vendre. S'il y a des Ismaélites qui passent à Saint-Augustin, là, vendez pas vos frères et vos soeurs parce qu'ils sont tannants, OK? Ben, je sais que c'est passé par l'idée de plusieurs ici, OK? Donc, pas de sagesse, là, non plus. Donc, Joseph, les gens. Puis le père, là-dedans, ben, il est un peu perplexe. Parce qu'ils repassaient ces choses dans leur cœur. Ben, il a quand même s'est prononcé. Il dit, attends un peu, là, c'est quoi tu dis là, tu sais, ça dort même pas de bon sens. Mais tout le monde, un peu, dans le fond, il savait pas trop comment dealer avec ça. C'était la patate chaude dans la famille qu'on sait pas quoi faire avec. Voyons, c'est quoi cette affaire-là que Dieu a dit à Joseph? Là, qui se pense bon, là, qui sont pas contents, puis le père, il sait pas trop quoi faire avec ça. Mais savez-vous qu'est-ce que je peux apprendre, moi, simplement dans tout ça? Il n'y avait pas de sagesse parce qu'ils n'ont simplement pas été à Dieu. Ils n'ont pas consulté Dieu. Savez-vous quoi? Ils avaient juste dit, « Hey, Dieu, c'est quoi tu fais avec ça? » Pensez-vous que Dieu aurait pu leur donner la sagesse, il aurait pu leur donner la direction, Dieu aurait pu... Mais d'après ce qu'on voit dans le texte, personne n'a fait ça. Peut-être le père, parce que ça dit qu'il gardait ses choses en souvenir. « Ouais, ouais, c'est, Dieu, c'est quoi ça veut dire tout ça? » On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui sont sous silence là-dedans. Mais ça l'amène le point ici. La clé pour la sagesse de Dieu, c'est aussi simple que d'aller à Dieu. Comme ça dit dans Jean. Manquer de sagesse, aller à Dieu. Christ est notre sagesse. On a déjà toute la sagesse dont on a besoin, mais Dieu veut qu'on aille à lui. Dieu veut qu'on vive la dépendance relationnelle avec lui. Dire, Dieu, je ne sais pas comment, moi. C'est quoi tu fais avec ça? Ou, tu sais, des fois, il arrive des situations. Dieu, c'est quoi que tu veux me communiquer à travers ça? Je ne comprends pas ça va où. Je ne comprends pas. C'est quoi le sens de tout ça? Mais toi, Dieu, tu le sais. C'est pas plus compliqué avec toute cette question de la sagesse de Dieu. C'est lui qui nous la communique. Et je dirais là-dessus, il y a un mot, puis là, c'est un mot qu'on va regarder à travers le mois de juillet ensemble. Le mot « demeurer ». Le mot « demeurer », qui est un mot que Jésus a pris souvent, spécialement dans l'Évangile de Jean. Nous, quand on pense à demeurer dans la Bible, on va penser, mettons, à l'immobilité. Je demeure à telle place, la maison ne bouge pas, puis on est là, c'est notre place, OK? Puis c'est vrai qu'il y a ce concept-là là-dedans. Mais le mot « meno » dans « épiméno », les mots qui sont pris pour référer à ça, le mot « demeurer », l'idée, là, c'est rester attaché, ne pas s'éloigner ou maintenir la connexion vitale. Et ça, Jésus l'a tellement bien exprimé dans Jean, justement, au chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Quatre fois, il dit le mot « demeurer » dans ce verset-là, Jean 15, 4. Et donc, c'est vraiment ici, Jésus prend cette idée de l'union organique, un arbre avec les branches, puis la sève, OK? Si la branche ne demeure pas attachée, reste attachée au tronc, ben la sève ne passe pas, puis la branche a mort, OK? Donc, l'idée de la sagesse de Dieu, c'est simplement de rester attaché à Jésus de façon consciente. Ça veut dire quoi? Je parlais tantôt, des fois, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Dieu a besoin de nous donner le sens de ça, d'aller à lui, mais c'est demeurer, c'est rester dans cet état conscient de dépendance. Dieu, je n'ai pas la réponse. Dieu, je ne veux même pas essayer, moi, de la trouver la réponse. Dieu, je viens à toi, tu es ma sagesse. Tu es celui qui peut mettre la lumière sur ces choses ténébreuses pour moi. C'est ça l'idée de demeurer. Demeurer dans cet attachement, cette dépendance. Dieu, c'est toi ma vie. C'est toi qui peux faire porter du fruit. Moi, je ne sais pas comment tout ça, là, ça peut porter du fruit. Mais toi, tu le sais. Je viens à toi. C'est ça l'idée de demeurer. C'est juste ça. Rester attaché, rester dans cette connexion vitale. Puis encore là, quand on pense à demeurer, c'est lui qui nous tient. C'est lui la source de vie. Notre besoin, c'est simplement de demeurer dans cette conscience de cette réalité. On est attaché à lui, on est dans la vigne, mais c'est se le ramener. Un peu comme le Père, il gardait le souvenir de ces choses, les ramener à notre cœur. Comme Marie, avec tout ce qui arrivait avec Jésus qui est né, puis tout ça, puis elle repassait, puis les événements entourant sa naissance, elle repassait ces choses dans son cœur. Qu'on médite sur ces choses, sur les réalités que Dieu amène dans nos vies, qu'on les ramène. C'est ça l'idée de demeurer, puis c'est ça ici l'idée avec la sagesse de Dieu. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, savoir comment avancer dans ce que Dieu nous amène. Et le troisième élément essentiel dans le plan vers la grandeur de Dieu, c'est le suivant, le processus de Dieu. Oh, le processus de Dieu. Y a-t-il ici quelqu'un qui a une idée du processus que Dieu veut employer, nous faire penser dans nos vies? On n'a aucune idée, personne. C'est quoi le processus? Tu sais, par où, comment, puis où, puis quoi? On ne sait pas. On regarde en arrière, on voit, OK, on a passé par là. On est un petit peu, on a une idée pour le présent, mais pour l'avenir, ça mène où? On ne sait pas, OK? Bon, puis c'est ça ici, on ne va pas tous les versets, mais tu sais, la fin du chapitre, tout ce qui arrive là, les frères qui veulent le tuer, finalement, qui le mettent dans la fosse, puis après ça, le vendre et tout ça, puis là, c'était pas fini, là, c'était le début d'un long processus, d'un long trajet d'épreuve que Dieu avait pour Joseph. Et ça, l'important là-dedans, là, pour Joseph, ce n'était pas de tout comprendre. C'est de s'attacher à ce que Dieu y avait dit, puisque Dieu voulait qu'il sache, OK? Puis de demeurer dans cette position. Ou pour le dire autrement, l'important dans le processus de Dieu, là, c'est de demeurer sous Dieu, sous son autorité, sous, OK? De rester dans cette position de dépendance. C'est ça qui va nous faire passer au travers. C'est pas notre force, c'est pas tout le fait de comprendre et d'avoir toutes les explications. Non, c'est dire, Dieu, je demeure dans cette position de dépendance. C'est ça qui va nous faire passer au travers. Oui, pour avoir la sagesse de savoir quoi faire à quel moment, mais même des fois on perd un peu, tu sais, on est un peu dans la brume, mais juste de dire, OK, Dieu, même si je vois pas avec mes yeux, même si je comprends pas, je demeure sous toi. Je me soumets à toi, je te fais confiance. Et ça, tout au long du processus, c'est ça l'idée de demeurer sous, ou c'est-à-dire épiméno, demeurer sous l'autorité de Dieu, sous sa personne. Et Dieu, qu'est-ce qu'il faisait pour Joseph? Mais Dieu le préparait à tout ce qu'il y avait pour lui. OK? Dieu, il a donné une vision, après ça, là, il a permis des circonstances. Puis Dieu a commencé là-dedans à y enseigner la sagesse, à savoir comment dealer avec les choses, pour passer à travers. En termes relationnels, Dieu enseignait à sa propre façon, comme Dieu seul peut le faire, il enseignait à Joseph à demeurer sous son autorité, à demeurer connecté, à lui faire confiance, peu importe ce qui arrivait. Ou si vous voulez, à demeurer dans la maison de Dieu, pas juste comme un invité, OK, Dieu, tu peux venir en visite. Non, non, c'est permanent. On reste ensemble. C'est ça l'idée de demeurer, c'est ça qui va faire la différence pour passer au travers du processus que Dieu a pour nous autres. Et dans un sens, on peut dire que c'est déjà accompli, si on est un enfant de Dieu, Christ demeure en nous. Hein? Christ en nous, l'espérance de la gloire, OK? Mais il y a aussi la question de la foi, où est-ce que consciemment, on se ramène à la réalité que Christ est en nous et que nous sommes en lui. Ça, il y a une question de foi là-dedans, parce qu'on peut l'oublier. Des fois, on peut comme vivre un peu sur le pilote automatique, puis on oublie ces choses bénies, ces réalités qui sont les nôtres, mais qu'on doit se ramener comme étant un fait, comme étant ce qui nous définit, comme étant l'ultime réalité pour nous autres. On doit faire le choix volontaire et conscient de demeurer dans cette réalité. C'est ça l'idée du juste qui vit par sa foi. C'est ça qui va nous permettre d'expérimenter d'une façon bien unique notre confiance en Dieu. Ou pour le mettre dans les beaux mots d'Ésaïe, c'est ce qui va nous permettre de renouveler nos forces, de prendre notre envol comme les aigles. Et ça, c'est surnaturel. Ça m'amène à conclure. J'ai parlé de Jean 15. Tantôt, j'ai lu Jean 15, 4. Écoutez maintenant le verset 7. « Si vous demeurez en moi... » Oh, il y a un conditionnel ici. « Si vous demeurez en moi, Jean 15, 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi. Ici, ce n'est pas l'idée de si vous restez sauvé, si vous êtes assez bon pour demeurer sauvé. Ce n'est pas une question ici de garder son salut par nos propres efforts, OK? Parce que le salut ne se gagne pas par nos efforts, mais il ne se garde pas non plus par nos efforts. Le salut vient de l'Éternel, c'est l'œuvre de Dieu. On était en Adam, Dieu nous a placés en Christ, puis on reste là, OK? On ne va pas rentrer dans tous les détails de ça, mais juste pour clarifier ici que demeurer, ça ne veut pas dire de se garder sauvé, OK? Le fardeau du salut, au départ et pour tout le reste de notre vie, ne repose pas sur nos épaules. C'est la grâce de Dieu, OK? Mais c'est par le moyen de la foi. Donc ici, quand il dit « Si vous demeurez en moi et mes paroles en vous, demandez ce que vous recevez. » Donc il y a une condition. Deux fois, il dit « Demeurez. Demeurez en moi, puis mes paroles en vous. » Puis ensuite, il y a un exaucement. « Demandez ce que vous voulez. » On va être exaucé. Ça va vous être accordé. Je crois que là, il y a vraiment le secret pour expérimenter le plan vers la grandeur de Dieu. Dis ce qu'il nous demande, là. Simplement, là, c'est ce qu'il nous dit, ce qu'il nous révèle, ce qu'il est, qu'on demeure dans cette conscience, dans cette foi. OK, ça, là, c'est ça qui définit ma vie. Dieu, Christ est ma vie. Puis, Dieu dit, demeure là-dedans, demeure en moi, puis mes paroles en toi. On parlait tantôt du temps personnel avec Dieu. C'est drôle comment Dieu ne mesure pas comme d'autres on mesure. Nous, on dit, OK, j'ai lu la parole, puis j'ai fait ce que j'avais à faire un matin. Je peux cocher, j'ai lu mon chapitre de la Bible. Dieu dit, non, non, est-ce que ce que tu as lu, ça demeure en toi? Puis, savez-vous comment c'est possible des fois de lire très intellectuellement, ou des fois, ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre. Puis on a comme lu, mais... Cinq minutes après, quelqu'un nous dit qu'est-ce que tu as lu? Ben, j'ai lu dans Genèse, là, tu sais, Joseph, là. Puis là, on ne sait pas trop. Pourquoi? Parce que les paroles ne demeurent pas en nous. Des fois, c'est mieux de lire un verset, puis juste de s'arrêter dessus, puis de le lire, puis de méditer, puis qu'il reste en nous. OK? Pourquoi? Parce que c'est le matériau que Dieu utilise pour accomplir son œuvre dans nos vies. OK? C'est ça l'idée de demeurer, puis demeurer en moi, que mes paroles demeurent en vous. C'est ce qui va amener l'œuvre de Dieu à s'accomplir dans nos vies. Puis là, n'ayez pas peur, là. Si, mettons, des fois, vous n'arrachez, puis Dieu est plus grand que juste notre capacité à demeurer. Je ne suis pas en train de vous dire que là, vous avez le fardeau d'essayer de demeurer. Puis non, l'idée, c'est restons dans cette conscience, dans cette foi qui regarde à Dieu et qui demeure dans notre relation avec lui, qui demeure sous son autorité, peu importe ce qu'il envoie. Tu sais, des fois, il y a des coups plates dans la vie qui peuvent arriver. Dire, OK, Dieu, c'est vraiment pas ce que t'arrives, mais je viens à toi savoir, c'est quoi tu veux me dire avec ça? Puis, qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est ça l'idée de demeurer. Puis là, les paroles de Dieu, Dieu va nous rappeler sa parole, va nous rappeler des choses. C'est relationnel. C'est revenir à Dieu. C'est ça l'idée. La clé, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une façon de faire, c'est une personne. Demeurer sous lui, demeurer dépendant, connecté, en connexion vitale. Et donc, je te remets avec une série de questions. Dans le premier point, on a vu la révélation de Dieu. Dieu a révélé une identité à Joseph. Est-ce que Dieu t'a donné à toi, à ton cœur, à toi, une identité propre? OK, d'abord, est-ce que tu acceptes l'identité d'être un chrétien, que ça n'est pas selon la performance, mais aussi, même plus précisément, est-ce que Dieu t'a donné quelque chose de précis pour toi? Il t'a créé avec ce but en Jésus-Christ pour que tu vives ces choses. Est-ce que Dieu t'a donné ça? Si ce n'est pas clair, demande-lui. Dieu il révèle ce qui est caché. Puis Dieu, si on le cherche, on le trouve. Fait que déjà, c'est pas compliqué. Si vous le savez pas, c'est pas grave. Allez à celui qui le sait, puis qui veut vous le dire. Donc, première question, Dieu t'a-tu donné une identité propre à laquelle tu peux t'accrocher? Est-ce que Dieu t'a donné la sagesse pour passer au travers de ce qu'il permet dans ta vie. Puis là, quand je dis Dieu nous a donné Jésus, puis on a toute la sagesse dont on a besoin. Mais est-ce que tu te l'es approprié? Est-ce que Dieu t'a montré un comment? Est-ce que Dieu t'a montré un cas de dealer avec les choses que tu deals? Que là, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Ah, Dieu, merci. Ça va m'aider à être capable de faire face à ce que tu m'as donné. Encore là, c'est pas clair. Allons à lui, tout simplement. Il est notre sagesse. Puis troisième question, donc Dieu t'a donné une identité, t'as-tu donné une sagesse pour dealer avec ces choses, puis est-ce que Dieu t'a embarqué dans son processus? Savez-vous quoi, si vous êtes un enfant de Dieu, là, désolé de vous le dire un matin, là, si vous ne saviez pas, vous êtes dans le processus de Dieu, puis son processus, ça comprend de souffrir pour le bien, puis le péché des autres, puis son processus, il y a l'épreuve de la foi là-dedans. On n'est pas de ceux qui croient que si on est un chrétien, on n'aura plus de problème, tout va être beau, puis on n'est pas supposé d'être malade, on n'est pas supposé avoir de l'argent, plein de comptes de banque, puis ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, Dieu bénit, puis Dieu est extraordinaire, mais quand on est un enfant de Dieu, on n'est pas exempt des épreuves et des choses qui sont du monde ici-bas. Mais on a Dieu qui est là, en plein milieu, puis en fait, qui est spécialement là lorsqu'on vit ces choses. Est-ce que Dieu t'a embarqué dans son processus pour vivre toute la grandeur de ce qu'il a avec toi? Encore là, je ne suis pas sûr, je ne sais pas trop, je suis un peu confus. Tu peux aller à lui. Il est le chemin. Dans tout ça, autant pour Joseph qu'on a considéré ce matin que pour nous, toutes ces choses-là sont données par Dieu. Elles ne sont pas acquises. Ne regardez pas à vous-même, essayez d'avoir ce que ça prend. Dieu a tout ce que ça prend, puis il veut simplement nous le donner. C'est quoi Dieu nous demande? D'y faire confiance. Dieu nous demande la foi. C'est ça notre partie. Fais-moi confiance. Donc, on peut s'approcher dans l'esprit de Hébreux 4:16, un beau verset à prendre par cœur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Puis, tant que vous n'êtes même pas encore réconcilié avec Dieu par Jésus, par le sang de la croix, écoutez ce que Jésus lui-même a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. On te remercie, Seigneur, de ce que ce matin, on a pu s'arrêter ensemble avec ta parole et toi, Seigneur, qui se donne à nous encore une fois. Merci, Seigneur, que ce n'est pas juste des belles paroles dans Ésaïe, que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force, qui prennent leur envol comme les aigles. C'est vrai. C'est vrai, Seigneur, tu es absolument tout ce que tu dis être. Et tu es fidèle à tout ce que tu nous dis dans ta parole. Merci pour ça, Seigneur. Merci que peu importe dans l'état dans lequel on est, tu peux nous rencontrer, nous rejoindre, te donner à nous. Merci que tu aimes les perdus, que ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Jésus, avec toi par Jésus, Seigneur, tu veux les amener au pied de la croix. Tu veux qu'ils soient réconciliés avec toi. On te prie pour eux, qu'ils voient leurs besoins, qu'ils voient la provision et qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Et pour nous, ton peuple, Seigneur, on a besoin de s'accrocher à ce que tu nous donnes, à ce que tu nous dis être, ce que tu nous révèles, ta sagesse et le processus dans lequel tu nous fais passer. On veut demeurer en toi et que tes paroles demeurent en nous. Merci Seigneur pour ce matin, pour ce temps béni. On s'en remet à toi pour ce que ça veut dire pour nous ici, chacun individuellement et pour nous ensemble comme Église. Merci d'être si fidèle et bon. Merci grand Dieu extraordinaire de faire en sorte qu'on fasse partie de ce grand plan. Nous, si petits et insignifiants qu'on puisse être, on a de la valeur à tes yeux. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.